force de vente.
Dans la peau d'un conseiller financier.
Damien Lelièvre. Je suis ce type qui t'ouvre des comptes, te fait souscrire des assurances, puis te rappelle pour en signer d'autres. Celui-là même qui est injoignable quand tu en aurais vraiment besoin. Je suis cadre, je flotte quelque part au milieu de la classe moyenne du flanc social. Je travaille dans la banque assurance, je suis conseiller financier. Je suis de ceux qui se donnent bonne conscience chaque fois qu'ils détournent les consignes pour t'arranger, puis qui se justifient quand ils te vendent des merdes en se disant qu'on ne peut pas raisonnablement s'opposer à tout. Aux premières loges de l'injustice, je vois le jour ceux qui triment la nuit à torcher le cul des vieux abandonnés. Je rencontre les travailleurs qui se sacrifient pour rembourser leurs crédits, qui n'ont pas envie de s'occuper de leurs parents et pas le temps de voir grandir leurs enfants. Je suis le connard qui leur a refourgué ces crédits. Et s'il existait un prêt pour financer leur nounou, je leur aurais déjà fait signer. Puisque la nounou est payée en monnaie de singe défiscalisée, je l'aide à sortir d'interdits bancaires avant qu'elle ne replonge. Je m'arrache les cheveux sur ses dossiers pour que même dans la galère, elle accède aux privilèges du compte courant, des prélèvements automatiques, puis des dettes. J'aide les riches à devenir rentiers et les pauvres à s'endetter. Je clôture le compte du type qui saccage le distributeur parce qu'on ne finance pas sa prochaine bière et je passe voir un collègue perdu dans des tableaux d'amortissement. Je vis entre des ordinateurs et des humains à essayer de comprendre les deux. Du mauvais côté des écrans du mensonge social, je vois les actions EDF de l'écologiste, les discrets dépôts de liquide du psychologue sur son compte personnel, les riches qui se pensent pauvres et les pauvres qui jouent les riches. Je suis conseiller seulement de nom. Je suis vendeur par ma fonction, larbin de l'usine financière. Immunisé à l'arnaque, insensibilisé, je ne suis pas privilégié par ma paye, mais parce que je connais tous les recoins de ce dédale de paperasse qui étouffe le peuple sous des frais injustifiés. Dans quelle banque je travaille? Dans une enseigne interchangeable, avec des employés interchangeables et sûrement les mêmes actionnaires et leurs mêmes fortunes interchangeables. Je ne sais plus ce que je pense. Invisible, lucide, mais pas assez pour m'enfuir. Je suis un déchet mou du capitalisme qui fait une croix sur ses rêves. Imperméable à l'imaginaire à force de voir trop crûment la réalité, je vais noyer mes peines de cœur dans le taf et ma soif d'apprendre dans le guide de la fiscalité. Ma rage de vivre, je l'ai transformée en stress. Mon stress, je le fume avec un pétard le soir. Et mon pétard, je le fume parfois en écrivant. Alors je vais te raconter ma vie de vendeur. Et j'aimerais aussi te parler de ta vie de client. Le client est un enfant qu'on éduque. Pour comprendre mon métier, il faut comprendre pourquoi il existe. En 1965, IBM met au point une carte magnétique sur laquelle on peut enregistrer et lire des données numériques. L'année suivante, la banque Barclays installe le premier distributeur automatique de billets à Londres. La carte bleue apparaît en France en 1967 à l'initiative de 6 grandes banques, tandis que les distributeurs de billets bourgeonnent dans le monde entier. Aux États-Unis, on les appelle ATM, pour Automatic Teller Machine, littéralement machine à guichetier automatique. En France, la formule est plus douce. On remplace l'employé par un GAB, le guichet automatique bancaire. Les cartes de retrait et les automates qui les accompagnent provoquent une rupture majeure dans l'univers bancaire en sortant la banque de son périmètre habituel. Le consommateur peut désormais se passer du lien humain avec son agence. Dans les années 1970, la mise en réseau des bases de données informatiques et la puissance des nouveaux processeurs permettent l'automatisation massive des transactions bancaires. La lente disparition de l'argent liquide et la gestion des comptes sur Internet achèvent ce processus de mécanisation et d'externalisation de la chaîne de production des banques. La conséquence ? Une crise de surproduction des services semblable aux crises vécues dans l'industrie quand les machines produisent une avalanche de marchandises à bas coût sans trouver d'acheteurs. Les banques réagissent avec la même recette que l'industrie, inventer de nouveaux produits et en faire consommer plus. En langage bancaire, ça s'appelle équiper les clients et se diversifier pour développer le PNB, le produit net bancaire. Le PNB, c'est la marge commerciale, les commissions de la banque. C'est le Graal de toute banque, son coucher de soleil doré qui hypnotise la direction. Certains produits, comme les assurances, rapportent du PNB rapide et facile. C'est pour ça qu'elles veulent assurer ta voiture, ta retraite, ta santé, ton portable, tes clés, ta réputation sur Internet, tes retards d'avion, le chat, le chien, ta vie et ta mort. Ça n'a aucun sens? Les sinistrés sont rarement indemnisés? Peu importe, il faut faire souscrire des contrats pour maintenir les profits, développer ces nouveaux relais de croissance. Et si t'es fauché, c'est pas grave, on te vend un crédit, ça rapporte autant que t'assurer. Pour refourguer tout ça, il faut embaucher des vendeurs, beaucoup de vendeurs. C'est pour ça que mon travail existe et que je me suis retrouvée bêtement à travailler pour une banque. Sur nos cartes de visite, on se fait appeler conseiller financier, responsable clientèle ou encore conseiller patrimonial si on s'occupe des riches. En interne, la masse des commerciaux est simplement nommée force de vente. Pour qu'on soit une force et pas des boulets, il faut nous former. J'ai fait une licence professionnelle banque en alternance après avoir convaincu sur des petits contrats à l'accueil. La formation a été payée par ma banque qui en échange bénéficie d'avantages fiscaux et d'une main-d'œuvre bon marché. Mes cours étaient dispensés par le CFPB, le Centre de formation de la profession bancaire qui mutualise la formation des salariés des banques françaises. Dans sa com, le CFPB préfère s'appeler École supérieure de la banque. C'est un organisme privé très lucratif avec 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ces formations sont orientées par la Fédération bancaire française, le principal lobby français du secteur, ce qui entrave l'indépendance de la formation vis-à-vis des banques. En cours, j'étais avec des gens employés par plein de banques différentes, on révisait ensemble, on allait au resto ensemble et des fois, on dormait ensemble. En formation, je n'ai presque rien appris sur la finance, mais beaucoup sur la vente et la communication. Je ne vais pas cracher dans la soupe, on m'a assez répété qu'on nous offrait une des meilleures formations bancaires du marché. Je vais plutôt en partager quelques louches. Avant de nous apprendre à écouler des produits bancaires, les formateurs s'attachent à remodeler notre savoir-vivre et notre savoir-être. Dans un mélange imbuvable d'analyse transactionnelle, de programmation neurolinguistique, PNL, et de psychologie de comptoir, on nous apprend les fondamentaux de la communication.
You talking to me? You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking? You talking to me?
Pour eux, la communication, c'est un calcul de toute interaction humaine, de la politesse en tube qui fout vite la nausée. On nous projette la pyramide des besoins du psychologue Abraham Maslow pour comprendre les motivations des consommateurs et on nous initie à la communication non violente. On apprend ainsi qu'éprouver de l'empathie, c'est bien pour fidéliser la clientèle, que l'écoute active, c'est super pour découvrir le potentiel du client, mais qu'il faut savoir le stopper quand il est trop bavard. On m'apprend à changer mon vocabulaire aussi, éliminer les mots ou expressions tels que « problème, danger, souci, ennui ». Il faut garder un langage positif. Et puis on m'explique comment mentir correctement. Au téléphone, par exemple, je ne dois pas dire que mon collègue est parti au kebab avec Nadia, je dis « le rendez-vous de Monsieur Martin dure plus longtemps que prévu, peut-il vous rappeler ?» Rien de sorcier. La formation vise également à nous faire absorber la logique de la segmentation client. Dans chaque banque, tu es classé selon ta catégorie socio-professionnelle, ton potentiel, ton niveau d'équipement, selon le PNB que tu rapportes. Un autre score est attribué par nos ordinateurs selon le risque de ton profil. En fonction de ta note et de ton classement, on te rattache à un portefeuille client spécifique qui appartient à un conseiller dédié. Les nouveaux conseillers, les juniors, s'occupent des mal notés, des pauvres et des chômeurs, pour aller vite. À l'autre bout, les conseillers expérimentés, les patrimoniaux, s'occupent d'un petit portefeuille composé de clients bien classés. Au début, ça nous choquait, et puis on l'a rapidement intégré comme la norme. Quand tu es bien noté, on peut t'accorder des gestes commerciaux et de bons taux. Si au contraire, t'es pauvre et sans potentiel bancaire, que tu n'es pas un client à enjeu, on pourra courtoisement t'envoyer te débrouiller sur le site de la banque. Le temps et les moyens consacrés à un client sont en rapport avec sa rentabilité. Nous aussi, bien que nous n'ayons que notre force de travail à vendre, nous intégrons rapidement le mépris de classe. Les conseillers parlent des cassos, les cas sociaux, pour désigner les clients en difficulté financière. Ma formation allait entièrement dans ce sens. Nous devions apprendre à dominer. Les conseillers ont ce rôle ambigu, ils doivent à la fois écouter et commander, être proches, mais marquer une distinction sociale. Mon bureau est mis en scène pour faire sentir qui est aux commandes. J'ai un siège plus confortable et plus élevé que mes clients, et aussi plus de place pour allonger mes jambes, tandis que mes clients sont légèrement à l'étroit, piégés inconsciemment. Pour mieux dominer, je dois porter le déguisement de la classe dirigeante. Costard-cravate sombre, pantalon repassé et aux pieds, ces chaussures en cuir immonde et pointu qui s'appellent des Richelieu. Pour les femmes, c'est tailleur et talons, une démarche sévère et séductrice fera toute la différence. Je déroge parfois au code vestimentaire, mon directeur déteste ça. Le conseiller financier doit avoir une posture, c'est un jeu, tu dois assumer ce rôle. Si je vais voir le prêtre et qu'il n'est pas en soutane mais en caleçon, je n'aurai pas envie de me confesser. Et ça marche. Quand je suis en costard, les gens obéissent, apposent en confiance leur signature au bas des contrats inutiles. J'en ai conclu que les types en costard sont dangereux et à éviter. Quoi qu'il en soit, l'attitude des conseillers est soigneusement travaillée pour montrer aux clients qui est le pro, qui a le savoir et le pouvoir. Un formateur m'a résumé dans cette formule la posture qu'on attend de moi. Le client est un enfant qu'on éduque. Le dressage du client commence en le conduisant dans un circuit préétabli, la méthode de vente. Pour faire moderne, ils appellent ça CRM, pour Customer Relation Management. Ce sont des méthodes de persuasion issues d'un travail scientifique d'optimisation de l'interaction avec le consommateur. Elles ne changent presque pas d'une banque à l'autre car elles sont enseignées par la même école. C'est pratique quand tu veux changer de boutique. Les techniques de vente reposent sur un conditionnement et une méthodologie qui optimisent la productivité de la relation avec le consommateur. Mais ce n'est pas une science complexe, au contraire, le mécanisme de persuasion est modélisé pour qu'il puisse être exécuté facilement par des employés jetables. Mon travail est conçu un peu comme un logiciel informatique, j'applique des suites d'instructions en partant de données clients. Gérard Berry, académicien et informaticien, donne cette définition de l'informatique. Le but final de l'informatique est d'évacuer la pensée du calcul, afin de le rendre exécutable par un ordinateur qui est une machine fabuleusement rapide et exacte, mais fabuleusement dénuée de pensée. Vendre comme on me le demande, c'est exactement ça. Je travaille avec le reflet numérique des gens pour leur appliquer une suite de calculs. J'ai souvent posé des questions aux formateurs, puis en réunion sur nos méthodes de vente. J'ai demandé si ce n'était pas de la manipulation quand même. Ils m'ont toujours répondu d'appliquer, de ne pas analyser. Comme les ordinateurs, les conseillers exécutent des ordres, mais ils n'explorent pas le sens de leur action. C'est une façon de se préserver, d'éviter de se penser en tant que manipulateur. Si je parle de ce côté obscur de mon travail avec mes collègues, ils se braquent et répètent les discours de la banque, comme si j'étais juste un client dur à convaincre. On patauge depuis l'enfance dans un univers odieusement mercantile. Même une visite à l'épicerie t'expose au feu du marketing. Trahi par sa visibilité, la publicité est dénoncée pour son omniprésence et son pouvoir manipulateur. Or, la publicité ne peut rien sans une armée discrète de petites mains, la force de vente chargée de susciter l'intérêt, de convaincre puis de valider les achats. Son armement, ce sont des techniques de vente. Certaines sont criantes, d'autres suffisamment sophistiquées pour se fondre dans les conversations. Des questions anodines sur le chien ou les enfants font en réalité partie de la vente. Décoder les ressorts des techniques de vente, c'est ouvrir les yeux sur une des forces structurantes de notre économie, c'est lire les interactions, les motivations et le sens derrière tant de situations anodines. C'est aussi une condition pour s'en prémunir.
Séduire les clients, broyer les conseillers. Les écoles de commerce enseignent un principe basique aux futurs vendeurs. Il y a deux approches de la vente,
l'approche produit et l'approche client.
Dans l'approche produit, on achète quelque chose pour ses caractéristiques. Pour te vendre un gaufrier, on décrit la machine, ses 900 watts, ses réglages, sa surface téflonisée et son prix. L'approche fait trop appel au rationnel, au point que tu pourrais facilement renoncer à perdre 50 balles pour un gaufrier qui ne servira qu'une fois par an et fera tout disjoncter. Les enseignes se sont donc mises à creuser les caractéristiques du client lui-même plutôt que celles des produits. C'est l'approche client. Ici, ce n'est plus le gaufrier qui est fabuleux, mais ce qui va t'arriver avec. Le vendeur te demande en quelle occasion tu feras des gaufres. En famille, avec des amis? Vos neveux vous rendent visite, ils sont gourmands? La réponse est secondaire. Ce qui compte, c'est le film où tu te vois en train de servir tes gaufres dorées ruisselantes de chocolat à des marmots surexcités. Si tu es en manque d'imagination, la photo d'une famille heureuse sur l'emballage t'aide à anticiper ce bonheur à portée de carte bleue. C'est plus un gaufrier que tu achètes, c'est une famille réconciliée. Il ne te reste plus qu'à choisir librement entre les différents modèles. L'école de la banque m'explique que l'approche client sera votre meilleure réponse face à une concurrence de plus en plus agressive, tandis que l'approche produit est décriée. D'ailleurs, le mot produit est banni avec les clients. Je propose des solutions à des besoins. Ces solutions ont des avantages, mais jamais d'inconvénients. Ce sont
des contreparties.
L'approche client est aussi appelée
méthode globale,
parce qu'on prend en compte tous les paramètres de ta vie de client. Elle se décompose en de nombreux sous-programmes que je dois dérouler comme un plan stratégique pour nouer le fil de notre entretien vente. Évidemment, on continue à utiliser les bonnes vieilles ficelles pas très subtiles de l'approche produit et de banales ruses de vendeur. Je te fais toujours bénéficier exceptionnellement d'un mois offert sur les assurances inutiles. Je te fais découvrir notre nouveau service, car tout ce qui est nouveau fait vendre, comme le démontre un tour au rayon yaourt. J'utilise souvent la technique dite de l'alternative.
Pour votre crédit, vous souhaitez la garantie minimum ou on choisit la garantie complète qui couvre la perte d'emploi et l'invalidité ?
Ainsi, je définis le périmètre du choix et te retire la possibilité de ne pas souscrire du tout à l'assurance, qui est facultative sur un crédit à la consommation. Comme l'explique un document interne, il s'agit de reporter la réflexion du client sur un choix de modalité et non sur l'achat en lui-même. Comme l'ouvrier d'une chaîne qu'on rythme à coups de chronomètre, le cadre doit être cadencé jusque dans son esprit. L'univers de la vente bancaire est un système de surveillance totale. Chaque petit acte que je fais, chaque appel que je prends alimente des compteurs, des tableaux, des stats. Mon N+1 me fait chier tous les jours avec des débriefs inutiles. Il me reparle du nouveau produit présenté en réunion. Il me dit d'en coller un avec chaque ouverture de compte, que le client le veuille ou pas. Puis, il passe régulièrement dans mon bureau chercher mon reporting et repart scruter mes rendez-vous sur son PC. Il est stressé parce que mon N+2 le fait chier chaque semaine pour ses résultats, qui sont en fait les miens. Il sort de ses rencontres fébriles, tristes et méchants. Mon N+3 les fait chier tous les deux, ensemble, une fois par mois, équipé de graphiques qui prouvent qu'on est nul, braillant sur les résultats du troisième cadré, et ainsi de suite jusqu'en haut de la pyramide de la banque. Au sommet, il y a un reptilien qui sourit aux médias et manifestement mange trop. Je suis fliqué, pisté, comparé, briefé et traqué informatiquement et humainement. C'est ce qu'on appelle le pilotage commercial. Je suis parfois suivi en entretien par un mouchard qui se présente au client comme
un collaborateur qui vient assister au rendez-vous.
Il veille à ma bonne exécution de la méthode. Des chargés de développement dispensent des formations régulières pour recadrer, on dit
rebooster, les mauvais vendeurs.
Les objectifs des classements sont nos guillotines format Excel pour faire pression sur les mauvais et faire briller les meilleurs vendeurs, les managers les plus tarés, les finalistes de l'imposture. Un jour, j'étais accompagné en rendez-vous par une chargée de développement venue me surveiller. Pas d'échappatoire, je dois exécuter lâchement l'intégralité de mon logiciel de vente. La cliente fait mine d'être intéressée et nous quitte avec un sourire complice en m'assurant qu'elle réfléchira à tout ça. Le verdict est sans appel.
La cliente était prête à souscrire, fallait pas lui laisser le choix, tu n'es pas assez directif.
Elle marque une pause puis lance.
T'inquiète pas, la prochaine fois on concrétisera. Tu la rappelles, il faudra juste travailler la directivité. Je vais le noter dans tes axes de progrès, mais tes explications étaient très claires.
Un autre matin, mon N+1, N+2 et N+3 se sont invités dans mon bureau pour me cuisiner sur mes préparations d'entretien de la journée, mon plan d'action stratégique, combien de ventes je prévois de concrétiser avec Madame Truc, ce que j'ai déduit des rentrées d'argent de Monsieur Machin, et ainsi de suite. À 3 contre 1, tu te sens écrasé. Mais il faut tenir, rester entier. C'est un management dans le calme, dénué de cette violence visible contre laquelle on peut se rebeller, et pourtant, ça transpire de violence. L'évolution de carrière et les promotions s'obtiennent par un entrelac de copinage et de coucherie, comme dans la plupart des entreprises. L'idéal, c'est de fréquenter le barbecue sordide du samedi soir chez le directeur des ventes, un patriarche libidineux entouré de sa cour de pistonnets. Partager sa piscine avec des hauts placés ivres te gagnera une fausse complicité et un peu de répit quand tes résultats ne sont pas bons. On appelle ça
le réseau.
La plupart des directeurs sont des hommes, on les reconnaît à leur physique, grande taille, épaules larges, généralement beaux gosses en cours de décrépitude. Les femmes restent dans l'ensemble en bas de l'édifice. La majorité des conseillers financiers sont en fait des conseillères. Jeunes, elles peuvent débloquer leur carrière par des liaisons avec des personnes haut placées. Au final, pour elles, la pression managériale se conjugue au harcèlement sexuel. C'est pour toutes ces raisons que la force de vente, formatée et broyée au troisième degré, continue d'appliquer des méthodes de vente pernicieuses, qu'on continue de te questionner sur tes vacances pour te refiler une carte Visa Premier qui permet de partir l'esprit tranquille avec ses garanties rassurantes. C'est pour ça que je suis dangereux malgré ma voix apaisante et mes intentions bienveillantes.
Faire de la pédagogie avec le client pour lui faire découvrir ses besoins. La découverte est la première phase sérieuse du rendez-vous client. De la qualité de la découverte dépend la suite de l'entretien et la réussite de la vente. C'est l'étape socle de la méthode de vente durant laquelle je dois engranger un maximum d'informations sur tes motivations, ta famille, ton travail, tes loisirs, tes dépenses, tes assurances, ton patrimoine, tes dettes et tes projets. Je dois m'intéresser à toi. Tu es important quelques minutes et ça te flatte. En réalité, je vais plutôt mettre en information ta vie, te transformer en données pour alimenter des calculs. Pour te faire parler, je te pose des questions ouvertes et emmagasine en douceur toute ta vie. L'entretien ne doit pas ressembler à un interrogatoire de police. Si toutefois tu refuses de parler, j'ai un joker. La connaissance client est une obligation réglementaire dans le cadre de la lutte contre les activités de blanchiment et de financement du terrorisme. En jargon bancaire, cette application s'appelle le KYC. Know Your Customer. Connais ton client. La banque n'a aucun scrupule à exploiter tes données personnelles dans un but marchand. Cette obligation réglementaire vient également nourrir la connaissance client d'un point de vue marketing et permet donc une segmentation plus fine et pertinente. Le banquier doit connaître son client comme le militaire doit connaître son ennemi. Mon fascicule de communication professionnelle résonne d'ailleurs plutôt comme un manuel de chasse dans certains passages inspirés. Ne soyez pas trop pressé, observez votre client, écoutez-le, il se dévoile. Vous obtenez des réponses à des points que vous n'auriez sans doute pas osé soulever. Vous donnez à votre interlocuteur le sentiment d'être important. Vous découvrez au fil de l'entretien ses projets, ses préoccupations, ses désirs, ses craintes et ses contraintes. Mais attention au petit gibier, rappelle-toi, le temps et les moyens consacrés à un client sont en rapport avec sa rentabilité. En moyenne, dans mon établissement, un crédit à la consommation rapporte 950 euros d'argent réel, de PNB. Et l'avantage du crédit conso, c'est aussi qu'il demande beaucoup moins de travail et de paperasse réglementaire qu'un crédit immobilier. En quelques clics, je lance ton crédit conso. C'est pour ça que je ne pourrais pas te financer un garage ou une parcelle de terrain à 20 000 euros, mais que je serais ravie de te prêter cette somme pour t'acheter une cuisine équipée ou un SUV. À moins que tu ne sois vraiment trop pauvre, je dois te faire une proposition de crédit consommation à chaque entretien-vente, quel que soit le motif du rendez-vous. Faites de la proposition systématique, faut pas lâcher là-dessus, martèle mon directeur d'agence. En explorant tes projets, en te demandant à quoi va servir ton épargne pendant la phase de découverte, un ensemble d'images se sont illuminées en toi. Un mariage qui en jette, une véranda, de nouveaux seins, un utilitaire, peu importe, tu as toujours quelque chose de cher qui te manque. Mon rôle est de transformer ces rêves en produits bancaires.
Tu es payé pour ça,
rappelle mon directeur. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus dur, puisque je suis simplement un intermédiaire qui te rend service et te donne l'accès à un objet que tu désires déjà. Je sais par exemple que ton dernier crédit auto se termine bientôt. On discute loisirs. Tu me dis que tu ne peux pas accrocher ton VTT à ta citadine pour les sorties en Ardèche, que tu considérais un SUV pour la sécurité des enfants. J'enclenche la suite du protocole.
Vous n'avez pas besoin d'attendre l'année prochaine. On va étudier ensemble vos solutions pour que vous puissiez profiter de vos vacances sereinement.
L'activité de prêt des banquiers a longtemps été perçue comme immorale, en raison des conséquences souvent pitoyables de l'endettement sur les individus. L'islam interdit aux croyants de percevoir des intérêts en échange d'un prêt, tandis que l'usure était condamnée et interdite par l'Église catholique jusqu'en 1830. On retrouve des traces de cette condamnation morale du crédit dans un terme bancaire courant, le taux d'usure, le pourcentage défini par l'État au-delà duquel un prêt est considéré comme une escroquerie. Pourtant, les États ont besoin d'endettement. Le crédit, c'est la cocaïne de l'économie mondiale. Ça dope la consommation en puisant aujourd'hui sur les ressources de demain. De plus, une population surendettée s'avère plus docile et laborieuse. Beaucoup de mes clients acceptent les pires boulots pour rembourser leurs multiples dettes. Et oui, les conseillers sont des salauds qui revendent cette saleté. Et oui, c'est sûrement aussi la faute des clients qui ne devraient jamais s'en servir, tout comme les drogués feraient mieux de ne pas se piquer. Mais les conseillers sont du côté des dealers et ils ont leur contrat de performance à réussir, sinon leur grossiste les tue. Et puis, une extension de garantie sur tes achats, ça sera quand même utile quand ton gaufrier aura grillé.
Les assurances de personnes sont une autre famille de produits particulièrement lucratifs pour les banques. Sur ce terrain, la sécurité sociale, la retraite par répartition ou l'assurance chômage sont des assurances collectives, en concurrence avec les assureurs privés. Elles représentent un manque à gagner insoutenable pour la finance. Le secteur bancaire s'est acharné à décrédibiliser la protection collective pour la transformer en produit prêt à emporter. Les formations bancaires décrivent explicitement le démantèlement de la sécurité sociale comme une formidable opportunité commerciale. Les banques ont conçu des milliers de produits tordus pour remplacer ce que la sécurité sociale et la solidarité locale réalisaient simplement. Mutuelle discount pour les pauvres et assurance vie défiscalisée 5 étoiles pour les riches. Les produits sont mis en pack, prêts à étaler sur ton compte. La création de sécurité sociale collective était une réponse à l'échec des solutions individuelles. Elle visait à recréer, sous une forme plus organisée, la solidarité qui existe dans chaque famille, dans chaque groupe humain. Mon rôle d'automate vendeur, c'est de suivre un protocole de persuasion pour te sortir de cette pensée collective et te faire souscrire des produits à la place. La société de consommation a savonné la planche, donc c'est assez facile.
Les conseillers sont-ils tous des connards malhonnêtes ? Tous les vendeurs peuvent raconter autour d'un verre comment ils ont laissé passer une belle vente en déconseillant à leurs clients de souscrire un produit parce que ce n'était pas dans son intérêt, que son option à la concurrence était meilleure. À les entendre, ce sont des conseillers bienveillants au service de leurs clients. Et c'est généralement vrai. Bien sûr, il y a les discours puants des grands fauves aux dents longues qui rayent le parquet. Ces conseillers qui disent se rattraper
sur les Noirs et les Arabes parce qu'ils s'en foutent, ils signent ce que tu veux, ils comprennent rien. Autrement, tu fais pas tes chiffres. Chaque ouverture de compte, tu glisses une ou deux prévoyances, ça passe crème dans tous les papelards à signer. Ça compense le temps que tu galères sur leur dossier.
Ceux-là finissent rapidement directeur et harceleur. Les autres, la majorité de mes collègues commerciaux, sont plutôt dévoués et sincères. Ils vivent mal l'injonction implicite de notre banque à faire de la vente forcée. Ils viennent de milieux populaires et connaissent les difficultés des gens. Les conseillers comptent les sous des autres, pas les leurs, et j'en connais beaucoup qui sont complètement fauchés, endettés par des crédits. Ils ne comptent pas non plus leur temps et font bénéficier avec plaisir de leurs connaissances, c'est même touchant. Ils n'ont jamais d'heure sup et pourtant, ils traînent tard au bureau pour boucler les dossiers, pour répondre comme ils peuvent à la pluie de messages des clients. Malgré la standardisation de l'échange, les objectifs de vente, une forme de sincérité pénètre les interstices des procédures et des rouages mercantiles. Même si on veut faire de nous des machines à vendre, on s'accroche à ces bribes d'humains qui permettent de tenir. Mon attitude dépend aussi des clients. Je n'ai jamais pu refourguer des produits pourris aux soignants de l'hôpital, aux infirmières qui viennent épuisées au rendez-vous à 9h du matin après 12 heures de garde avant de se coucher pour quelques heures. J'ai moins de scrupules avec les cadres sup. Ma malhonnêteté dépend aussi de mon humeur ou de la dernière réunion incendiaire avec le boss. Enfin, mon souci est que je suis tellement endoctriné que j'ai du mal à savoir si je suis dans l'imposture ou le conseil, si je travaille pour les gens ou pour mes objectifs, pour avoir là mon paix ou la paix avec mon directeur. À mon sens, les clients apprécient de se laisser un peu envoûter pour se déconnecter du rationnel, se décharger de leurs responsabilités, de telle sorte que la vente peut s'exercer comme une variante de la séduction. D'ailleurs, une méthode de vente, c'est bien. Une gueule sympa et des yeux qui pétillent, c'est encore mieux. Lors d'une prise de rendez-vous, les clients réclament souvent un conseiller de sexe opposé, jeune si possible. Les clients demandent quelques conseils, mais ils espèrent surtout ce qu'on attend d'un dragueur. Du charme, du réconfort, quelqu'un d'enjoué et positif. Ils ne sont pas dupes, ils savent que tout va se conclure par des paraphes en bas de contrat, qu'on est là pour leur argent, mais pas avant d'avoir été courtisé. Le vocabulaire de la relation client est celui des relations amoureuses. Les nouveaux clients sont des conquêtes, je ne vends pas, je concrétise, puis je fidélise, et si tu es insupportable, je ne clôture pas ton compte, je menace de rompre la relation quand ce n'est pas toi qui nous quitte. C'est probablement cette reprise des codes de la séduction qui rend l'approche client plus efficace. La plupart des clients cherchent de la compréhension et une écoute bienveillante qu'ils peinent à trouver ailleurs. Pendant les rendez-vous, les clients regardent à peu près autant mon écran d'ordinateur que moi. Des fois, ils essayent même d'y souligner des choses. Avant, sur l'interface client apparaissaient des mentions peu glorieuses sur la solvabilité du client, son score interne, sa segmentation, son fichage. En voyant ça, les clients se sentaient méprisés et se vexaient. Alors, pour ne pas les froisser, ma banque a développé le mode masqué. En présence du client, toutes les mentions désagréables disparaissent de l'écran. Toute la relation client est retravaillée pour te conforter. Tu n'es pas à découvert,
tu as un décalage de trésorerie.
Tu n'es pas un petit bourgeois qui gruge les impôts, tu fais appel
à un expert pour la structuration de ton patrimoine.
Ces euphémismes ne sont pas l'invention de conseillers malhonnêtes. Ma banque a simplement adapté son discours à ton orgueil. En revanche, de ton côté de consommateur, tu ne dois pas t'intéresser à moi. Tu peux me briser au moindre faux pas. C'est une séduction à sens unique. Tu ne dois pas t'inquiéter du fait que ton conseiller change tous les 6 mois. Le jour où tu as un problème, tu ne seras pas gêné de m'insulter, et tout le personnel de la banque avec, puisqu'on est des marionnettes impersonnelles, puisque le client est roi, puisque même la révolte doit s'individualiser et perdre tout esprit collectif. Ta haine des banques se transforme rarement en manif contre la fraude fiscale. YouTubisé au documentaire sur l'argent-dette, tu pourras te défouler sur un larbin de ta banque avant de fuir pour une banque 100% digitale, quitte à se faire plumer, autant que la Mastercard soit offerte. Alors qu'il existe parfois une solidarité entre travailleurs, de ton côté, c'est l'égoïsme compétitif qui règne. Tu es devenu client, alors tu perds ton humanité. Ça te donne le droit de passer tes nerfs sur d'autres esclaves. Et tu as gagné. Maintenant, tu as un service réclamation en carton spécialement pour toi. Des enquêtes de satisfaction pour mesurer jusqu'où on peut te refourguer de la merde avant que tu ne craques. Et tout un tas de banques te prêteront de l'argent pour que tu puisses continuer à acheter tes futurs déchets. Et si on était tous moins stupides, elles seraient moins riches et beaucoup moins dangereuses. Voilà pour mon moment d'aigreur.
Client suivant, s'il vous plaît. Ravi de vous revoir, Madame Messager. Où en sont vos projets? Ah, vous clôturez vos comptes. Attiré par une banque en ligne beaucoup moins chère?
Les ravages du numérique. C'est probablement lors de mon phoning que la robotisation du travail est la plus rigide. Chaque semaine, je dois bloquer plusieurs heures pour appeler des clients, ça s'appelle des sessions de phoning. Les gens n'aiment pas être dérangés au téléphone, ils sont sur la défensive quand ils répondent et ne rappellent jamais quand je leur laisse un message. Du coup, j'aime pas ça non plus. Pourquoi les appeler alors ? Parce qu'on m'y oblige. On m'y oblige parce que les clients à potentiel sont les plus injoignables, comme des gisements lointains à explorer. Il faut aussi préserver un semblant de lien au cas où le client se ferait aguicher par des concurrents. Chaque année, je dois avoir contacté 100% de mon portefeuille, mais ce n'est pas grave si j'oublie les pauvres. Je ne choisis pas qui j'appelle, un programme m'injecte des cibles avec des motifs d'appel. On n'utilise pas un téléphone mais un casque audio et ça passe par un logiciel lui-même connecté à notre outil Customer Relation Management, CRM, qui contient les dossiers clients. Le logiciel retient tous les appels, entrants, sortants, leur durée, le client, la date, l'heure, tout. Je dois compléter avec des commentaires pour montrer que j'ai traité mes appels scrupuleusement. Dans toutes ces étapes, j'ai peu de marge de manœuvre, rien de personnel à apporter à part un bonjour faussement enjoué. L'organisation de mon travail est déterminée par les serveurs de ma banque. Avant cet outil, j'avais plus de latitude, je pouvais tricher, c'était bien. Je laissais les gens tranquilles. Si je n'ai pas fini mon phoning, les appels non traités apparaissent en rouge vif sur le panneau de contrôle de mon portail intranet. Les appels passés sont en vert. Tant qu'il y a du rouge, il y a danger. Mon interface graphique de phoning, comme celle des autres logiciels bancaires récents, est à l'image des réseaux sociaux, avec une batterie d'alertes pour chaque nouveau mail, chaque appel, chaque alerte commerciale, chaque donnée manquante. Or, les plateformes développées par les GAFA sont perfectionnées pour maintenir l'utilisateur connecté et engagé le plus longtemps possible pour créer une sorte d'addiction. Mon tableau de bord client dispose ainsi de voyants circulaires de connaissances clients. Rouge, puis orange, puis bascule au vert, uniquement quand je suis à 100% de connaissance client. Cet effet visuel est conçu pour générer de l'angoisse si c'est incomplet. Nos réflexes biologiques sont mobilisés avec le rouge et l'orange, les signaux de danger. D'ailleurs, si mes dossiers restent rouges, le contrôleur bancaire me sanctionnera, ce qui aura pour effet de baisser ma rémunération variable. Le problème, c'est que compléter tous les dossiers est impossible, ou alors il faudra y passer ses soirées, et au final, c'est moi qu'on met en danger. Alors pour gagner du temps, tous les conseillers remplissent en partie les dossiers avec des informations imaginaires. Donc, au lieu de faire mon travail de façon linéaire, je subis toutes sortes de notifications désordonnées, ce qui me rend assez inefficace, mais ça aide mon employeur à me faire dépasser mes heures sans me payer. Dans la com interne, on m'explique pourtant que ces nouveaux outils ont été créés pour faciliter mon travail, pour m'aider. Alors pourquoi j'ai ce sentiment que la technologie et le numérique ont détruit mes conditions de travail ? Dans ma banque, la médecine du travail a réalisé une enquête auprès de la force de vente. Conclusion, les conseillers vont très mal, ne supportent pas la pression, dénoncent une perte d'autonomie et ne trouvent pas de sens à leur travail. 78% des conseillers sont stressés au travail, 21% souffrent de troubles dépressifs et 23% prennent des médicaments pour tenir. Les autres vont mal, mais ne se soignent pas. Mon collègue d'agence est régulièrement en arrêt maladie. D'un côté, c'est pratique, puisque je récupère ses ventes. Mais de l'autre, ça double mon travail, car je prends ses appels, ses mails et tout son SAV, le service après-vente. Le médecin du travail a démissionné depuis son enquête, son poste est vacant. La CGT propose d'agir collectivement, mais faire grève et revendiquer ensemble dans un métier à la culture aussi individualiste, ça paraît lunaire à la plupart. On loue notre force de travail, on est mis au service des actionnaires, mais notre statut de cadre et nos tenues de croque-mort nous empêchent de nous identifier comme des membres de la classe ouvrière. Alors la CFDT et la Confédération Générale des Cadres passent distribuer des stylos et des mugs avant les élections professionnelles, promettent de minables arrangements, gagnent les élections, puis disparaissent dans un entresol de la direction. Le vendeur de la banque assurance est un travailleur à la chaîne. Son corps est intact, mais son être se casse trop rapidement. Brisé par le rythme, les clients, la direction, l'absurdité, le manque d'humains et de moyens. On ne survit jamais longtemps. Obsolète en quelques années, on nous remplace par des travailleurs neufs, tout frais moulés par leur école bidon. On trouve vite des jeunes prêts à vendre 35 heures de persuasion contre une prime de performance et des tickets resto. Les banques ont un taux de renouvellement élevé, c'est pour ça que ton conseiller change souvent. Les plus voraces deviennent directeurs d'agence. Les autres, les déchets, peuvent être recyclés en quelque chose qui se vend encore sur le marché du travail. Les plus abîmés finissent en arrêt maladie, les tiroirs pleins de cachets. Ma banque s'en fout, c'est la sécu qui paye, et quand on l'aura coulé, on vendra des assurances burn-out. Face aux mauvaises conditions de travail des usines à service du XXIe siècle, face à l'incompétence de ces vendeurs qui n'arrivent pas à boucler leurs sessions de phoning, les banques ont répondu naturellement par une nouvelle phase d'automatisation, cette fois par une exploitation de masse des données personnelles couplée à l'intelligence artificielle. Mélancolie bancaire. Forcément, vu ce que j'ai raconté de mon métier, tu te demandes ce que ça peut foutre que des banquiers soient remplacés par des robots qui racontent les mêmes conneries que des imposteurs en costard. Et en plus, je ne t'ai pas donné de tuyaux sur les meilleurs fonds de placement et les actions à suivre, ni même expliqué comment défiscaliser ton bien locatif. Je peux me défendre, en faire des tartines sur cette humanité brillante qui fait mousser l'entretien client. Les discussions avec Madame Benasseur sur son travail de nuit, avec Monsieur Riveron qui me ramène une tablette de chocolat à cuire, la larme à l'œil pour me remercier de l'aide héroïque dans la résiliation de son abonnement CanalSat, ses voleurs. Les discussions avec des agriculteurs endettés qui me racontent les combines du Crédit Agricole pour leur faire racheter des putains de machines du diable qu'ils ne pourront jamais amortir. Que s'ils se suicident, faudra pas le dire, sinon l'assurance remboursera rien. Et puis quelques jours plus tard, on passe me déposer une bouteille d'eau de vie, avec un grand sourire. Personne n'est mort. Des gens qui prennent rendez-vous pour me voir, pas pour leur compte. Des gens en pleurs, souvent, je sais pas pourquoi. Pour m'attendrir, sûrement. Ça marche bien, je suis bon public. Personne n'aime les banques. Pourtant, conseiller, t'es le dépotoir bureaucratique du vague à l'âme. Ça doit soulager de voir un type qui t'écoute sans mater son mobile, te sourit sans caméra, te dit quelques mots sincères qui prouvent qu'il t'a compris. Forcément, je les comprends, moi, les gens. J'en vois à longueur de journée, des gens dans la merde et dans la joie. J'en fais partie aussi. Ce mâchouillis d'empathie vient se coller à toutes les semelles cireuses des vendeurs. Un peu de lubrifiant qui m'aide à débiter mes salades. Une séance de thérapie offerte pour chaque contrat souscrit. Alors oui, j'ai peur qu'on me balaye ces éclats d'humanité à coups de cyber-conseillers en carton-pâte digital, mais en fait pas tant que ça. Je regrette la disparition de savoir-faire anciens, de métiers artisanaux. Mais comment regretter le travail prédigéré du conseiller financier à la chaîne ? J'ai ma part de culpabilité dans l'enlaidissement consumériste du monde, dans la contrefaçon des relations humaines. J'obéis à des ordres, composant miniature de la machinerie bancaire. Mais est-ce que cela m'innocente ? J'aimerais surtout que les gens redeviennent vivants, qu'ils arrêtent d'acheter des trucs et des services, qu'ils oublient leur téléphone, se voient et se parlent pour de vrai, ici maintenant, et puis demain aussi. J'aimerais retrouver ma vie d'avant aussi. Ouais, je vends du rêve, c'est mon métier, encore pour quelques temps. Garde ma carte, n'hésite pas à m'appeler, j'ai un super répondeur. Force de vente dans la peau d'un conseiller financier. Un ouvrage de Damien Lelièvre aux éditions Le Monde à l'envers. Lecture, Rémi Sabonadière, Clémentine Métainier. Montage, Rémi Sabonadière.